sur France Inter, il est 19h. Hélène Philippe pour le journal, bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Quelles mesures pour aider les Français à faire face à la hausse des prix des carburants? Plusieurs jours que le gouvernement phosphore entre chèques ou baisse de taxes. Aucune solution n'est vraiment parfaite. Mais l'exécutif a tranché, Jean Castex, ce soir aux 20h de TF1. La troisième dose de Pfizer, efficace à plus de 95%. Les dernières données du laboratoire viennent donner des arguments à ceux qui militent pour élargir la campagne de rappel vaccinal. Dans l'actualité encore au Soudan, des centaines de milliers de manifestants ont crié aujourd'hui leur rejet des militaires. Toujours au pouvoir. Les conditions de garde à vue devant le Conseil d'État. Et puis, la tempête Aurore est passée, mais 40 000 foyers sont encore sans courant. La circulation des trains perturbée jusqu'à au moins demain matin en Normandie. Et par cette grève aussi au niveau national, un TGV sur 10 annulé demain, 1 sur 3 ce week-end. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien, appel au don, don de sperme et d'ovocytes. L'Agence de la biomédecine lance aujourd'hui la plus grande campagne jamais lancée sur le sujet. Depuis 3 mois à peine que la loi bioéthique est adoptée et ouverte aux femmes seules et aux couples de femmes. La demande est très importante. Et ce que cherche l'agence de biomédecine, et c'est vraiment intéressant, ce sont aussi des donneurs au profil varié, parce que donneurs et donneuses sont très majoritairement blancs. Voilà, un joli sujet, des questions en tout cas passionnantes. On vous attend au 01 45 24 7000.
France Inter. Alors que la campagne de rappel vaccinal peine encore à convaincre en France, voici donc une large étude du laboratoire Pfizer-BioNTech qui donne de nouvelles données sur l'efficacité de la troisième dose, plus forte d'après le fabricant que la deuxième. Bonsoir Hélène Chevalier.
Bonsoir.
C'est en tout cas ce que semblent montrer ces chiffres qui attendent encore d'être avalisés par les autorités sanitaires.
Oui, selon le communiqué de Pfizer et BioNTech, l'essai clinique de phase 3 montre que ce rappel vaccinal serait efficace à 95,6% contre les formes symptomatiques du virus. L'étude a été menée auprès de 10 000 personnes de plus de 16 ans. Un groupe a reçu le rappel 11 mois après avoir été entièrement vacciné. L'autre, un placebo. Et les résultats sont effectivement encourageants. Dans le premier groupe, seuls 5 cas de Covid ont été identifiés contre 109 pour le groupe placebo. L'effet booster fonctionne donc et surtout il fonctionne également contre le variant Delta, puisque les laboratoires précisent que l'étude a été effectuée alors que la souche du variant Delta était déjà prédominante. En août dernier, une étude menée par les autorités sanitaires américaines avait montré que l'efficacité des vaccins à ARN messager tombait à 61% avec le variant Delta.
Hélène Chevalier, des résultats sur lesquels pourraient s'appuyer les régulateurs qui hésitent encore sur l'ampleur à donner à la campagne de rappel à grande échelle en Israël, ciblée sur les personnes fragiles en Europe et aux États-Unis pour le moment. Et alors que l'épidémie est encore loin d'être définitivement endiguée, en Russie, la ville de Moscou se prépare à la fermeture de tous les commerces non essentiels à partir de jeudi prochain. Vladimir Poutine a aussi décrété une semaine chômée au niveau national du 30 octobre au 7 novembre. En France, c'est la possibilité d'utiliser le pass sanitaire jusqu'à l'été prochain qui agite les parlementaires et on sent un malaise jusque dans la majorité. Le vote de l'article 2, le cœur du projet de loi de vigilance sanitaire, a même été très très juste la nuit dernière. Une petite voix seulement a permis son adoption. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Un vote ric-rac, alors que le chef de file des marcheurs avait battu le rappel en début de semaine pour que les députés de la majorité soient bien présents.
Oui, si Christophe Castaner n'avait pas mis la pression sur ses troupes, on aurait même pu avoir un vrai accident, souffle un ministre. Mmh. La gestion sanitaire du gouvernement retoquée, imaginez la victoire pour les oppositions et la catastrophe, au moins en termes d'image, pour l'exécutif. Alors heureusement pour les marcheurs, rien de plus qu'une belle frayeur. Nos adversaires ont raté leur coup et maintenant ils racontent qu'ils l'ont presque réussi, ironise un cadre, mais une frayeur qui met tout de même en lumière une vraie inquiétude des patrons d'En Marche. Le risque d'une démobilisation de députés de plus en plus préoccupés par leur réélection et donc de moins en moins présents à Paris. Alors en l'occurrence, on a déjà vu les bancs de la majorité plus clairsemés qu'hier soir, mais face à des oppositions surmobilisées en cette fin de quinquennat, le moindre moment d'inattention peut faire très mal. D'où l'avertissement lancé par Christophe Castaner, avertissement très ferme selon plusieurs députés qui l'ont même ressenti comme une menace sur leurs futures investitures. Le président du groupe Modem. Patrick Mignola, d'ailleurs, a lui aussi battu le rappel des troupes à moins de 6 mois de la présidentielle. Hors de question d'offrir aux concurrents d'Emmanuel Macron l'occasion de claironner. On est passé très, très près hier soir.
Puis parmi les mesures votées dans le cadre de ce projet de loi hier, il y a donc la prolongation du pass sanitaire avec la promesse d'un rapport d'étape des mesures prises en février devant le Parlement. Cet amendement aussi qui permet aux chefs d'établissement scolaire de connaître le statut vaccinal des élèves. Autant de mesures d'exception dont la défenseur des droits elle-même pointe le risque qu'elles s'inscrivent dans la durée. Claire Hédon se dit aussi préoccupée par la fin du remboursement des tests de dépistage. Elle y voit un risque de discrimination.
Des personnes qui sont en situation de plus grande difficulté ou précarité devront payer pour faire un test, alors que jusqu'à maintenant c'était gratuit. Ça me paraît contre-productif en termes de contrôle d'une épidémie. Et d'ailleurs, on voit bien une grande baisse du nombre de tests. D'autre part, une personne qui est vaccinée, elle peut directement aller se faire dépister. Et une qui n'est pas vaccinée doit passer par un médecin pour avoir une ordonnance et se faire dépister. Pour les personnes qui sont déjà le plus éloignées des soins et qui ont déjà du mal à avoir un médecin, ça les éloigne encore plus et elles n'iront pas, de fait, se faire tester. Et donc, c'est contre-productif en termes de contrôle de l'épidémie. Et puis, d'autre part, on est quand même encore dans une situation où il y a un lien entre le taux de vaccination et le taux de pauvreté dans certains quartiers. Et donc, on complique encore la vie de personnes qui sont déjà éloignées des soins. Et de plus, ça s'apparente aussi à une obligation vaccinale déguisée.
Claire Hédon au micro de Béatrice Duguay. Le Conseil d'État avait dans son avis rendu public mi-juillet estimé nécessaire de revoir le dispositif si les tests devenaient payants.
Ça y est, le gouvernement a tranché. Jean Castex annoncera sa mesure pour alléger la facture de carburant ce soir au journal de TF1.
Amortir le choc et cette tempête sur les prix de l'énergie, une annonce qui s'est fait attendre, très attendue à la veille des vacances scolaires. Les prix à la pompe ont encore augmenté de 2 centimes la semaine dernière, atteignant des niveaux historiquement hauts. 1,56€ le litre pour le gazole en moyenne, 1,62€ pour l'essence sans-plomb E10, la plus consommée en France. On connaîtra donc la mesure décidée par le gouvernement tout à l'heure à 20h. Le pouvoir d'achat, en tout cas, c'est un thème qui s'est imposé ces derniers jours dans la pré-campagne présidentielle. On est à 6 mois de l'échéance et le gendarme de l'audiovisuel, le CSA, donne ses règles aujourd'hui de temps de parole dans les médias. Bonsoir Alexandra Akoun.
Bonsoir.
Alors il faut veiller au pluralisme politique et prendre en compte l'émergence de potentiels nouveaux candidats.
Oui, alors vous savez que le respect du pluralisme, c'est un principe que les médias audiovisuels, puisque c'est eux qui sont concernés, doivent respecter toute l'année. Mais pour 2022, c'est vrai que le CSA va renforcer ses exigences. Pour ça, un calendrier a été présenté. 3 périodes jusqu'au résultat du deuxième tour. La première courra du 1er janvier au 7 mars minuit. Là, ce sera le principe de l'équité de traitement qui s'applique aux candidats clés déclarés ou présumés, effectivement, leur temps de parole ainsi que leur temps d'antenne, c'est-à-dire si on parle d'eux, si on décortique un sondage, par exemple un édito, eh bien tout cela, il faudra que ça soit proportionnel à leur poids dans le paysage politique, déterminé par les résultats des récentes élections, les sondages, le bruit médiatique, pas une mince affaire, vous en conviendrez. Deuxième période du 8 mars, jour de publication au journal officiel de la liste des candidats au 27 mars, là ce sera plus clair, ce sera la période dite d'équité renforcée. Télé et radio devront en plus assurer aux candidats une exposition comparable. Pas à leur près, hein. La journée est découpée en 4 périodes. Matin, journée, soir et nuit. Enfin, du 27 mars, début de la campagne officielle, au 24 avril au soir. Là, ce sera l'égalité totale pour tout le monde. Et du temps de parole et du temps d'antenne.
Alexandra Akoun est en pleine campagne. Les changements de visage à la tête des grandes rédactions peuvent aussi faire réagir. Après l'éviction d'Hervé Gattegnaud, derrière laquelle certains voient l'influence de Vincent Bolloré, premier actionnaire du groupe Lagardère, Jérôme Bellet et Patrick Mahé vont prendre les rênes respectivement du journal du dimanche et de Paris Match. La presse, on en parle encore avec Facebook, qui vient de trouver un accord avec les éditeurs français de Presse Quotidienne. Le géant paiera, s'il veut, utiliser, publier le contenu des journaux. C'est l'aboutissement d'une négociation de 2 ans en application de la directive européenne des droits voisins du droit d'auteur.
Et à 19h09, Hélène, au procès du 13 novembre, après les rescapés du Bataclan, ce sont les familles endeuillées qui commencent à venir à la barre.
Et qui racontent ces heures interminables avant de savoir, qui racontent l'absence, le deuil. Charlotte Spiret, vous êtes au palais de justice sur l'île de la Cité à Paris avec Stéphane Beaufils. Des parents, des conjoints, des enfants ont perdu leur père, leur mère. Certains enfants étaient même, Charlotte, dans la salle ce soir-là.
Comme ce petit garçon de 5 ans venu au concert avec sa maman et sa grand-mère. Elles sont mortes toutes les deux ce soir-là. Maël, lui, a été récupéré par un policier. Un policier dont le grand-père de Maël lit le témoignage à la barre. Il y raconte comment il a vu les pieds d'un enfant bouger sous un corps inanimé. J'ouvre tout de suite mon blouson pour y cacher sa tête. Ils sortent du Bataclan. Tout le temps où le petit est dans mes bras, il me répète « Vous êtes gentil, monsieur. Vous êtes gentil, monsieur. » Maël a aujourd'hui 11 ans. Il est assis sur l'un des bancs de la salle d'assises. Juste derrière lui, Aurélie, venue raconter la perte de Mathieu, son compagnon, père de Gary, 3 ans. Ces trois assiettes que pendant si longtemps, elle a continué à mettre machinalement à table. Et la violence du geste qu'il faut pour enlever une assiette sans montrer à mon fils que je suis effondrée. Mathieu est aussi le père de Thelma, né 4 mois après sa mort. Je l'entends parfois murmurer « Papa » dans sa chambre, raconte Aurélie. Elle n'a jamais pu le dire au sien. À la barre, c'est au tour d'Alice, 13 ans, qui confie combien elle en a marre de devoir écrire « décédé » dans la case « père » des fiches de renseignement. Sa sœur Émilie, 16 ans, aimerait savoir ce qu'il pense de ce que je suis devenue. Il paraît que je lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et leur mère qui conclut « Ils n'ont pas seulement tué Manu, ils ont déchiqueté le cœur de mes filles ».
Charlotte Pirret, les enfants du 13 novembre, c'est aussi un reportage en longueur que vous aviez fait avant le procès, Charlotte, à réécouter sur franceinter.fr. 10 mois de prison avec sursis requis contre le joueur Karim Benzema au procès de la sextape. Il est accusé de complicité de tentative de chantage sur Mathieu Valbuena. Peine absurde, disproportionnée, a dénoncé son avocat. Jusqu'à 6 personnes dans une cellule de 5 mètres carrés, un état de saleté innommable, des odeurs pestilentielles. C'était le constat il y a un mois de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté. Elle dénonçait les conditions de garde à vue dans 17 commissariats. Un rapport dont s'est servi l'association des avocats pénalistes pour saisir la justice et obliger l'État à agir. Audience aujourd'hui au Conseil d'État que vous avez suivi, Ariane Grissel. Bonsoir.
Bonsoir.
Le ministère de l'Intérieur y était représenté et il affirme qu'il a déjà pris toutes les mesures nécessaires.
Oui, le ministère insiste sur les faits que ce rapport vise effectivement 17 commissariats sur plus de 600. Il n'y aurait, selon lui, pas de problème généralisé. Le gel hydroalcoolique n'est certes pas en accès libre, mais disponible. Les masques aussi. Faux, répond Patrice Spinozzi, qui représente l'association des avocats pénalistes.
L'administration se défend toujours en indiquant qu'elle a d'ores et déjà fait un certain nombre de choses, sauf que les constats qui sont faits sont totalement inverses. Depuis toujours, il y a eu un problème de salubrité avec un très grand nombre de locaux de garde à vue. C'est un secret de polichinelle.
Il s'agit d'une saisine en référé, ce qui veut dire que les avocats demandent des mesures rapides et il est possible d'agir vite, à en croire les requérants. Paul Matonnet était présent pour le syndicat des avocats de France qui s'est joint à cette saisine.
Il faut qu'il y ait des prestations de ménage quotidiennes qui ne soient pas suspendues au moindre prétexte, comme c'est le cas aujourd'hui, lorsqu'on nous explique qu'il n'y a pas de nettoyage des cellules parce qu'il faut attendre que la cellule soit vide. Il faut qu'il y ait des couvertures qui ne se passent pas de main en main avec des gardés à vue qui récupèrent des couvertures déjà utilisées par des dizaines de personnes sans avoir été nettoyées.
Alors le Conseil d'État ne tranche pas tout de suite. Il laisse 8 jours au ministère de l'Intérieur pour prouver que des mesures ont bien été prises et surtout que les consignes ont été passées. La contrôleure des lieux de privation de liberté cite l'exemple de kits d'hygiène trouvés dans le placard d'un commissariat. Même les policiers n'étaient pas au courant qu'ils se trouvaient là.
Ariane Grissel. Le dialogue plutôt que le chantage. Le Premier ministre polonais cherche l'apaisement à Bruxelles où les dirigeants européens sont réunis aujourd'hui et demain. Le conflit entre la Pologne et l'Union porte sur l'indépendance de sa justice et la primauté du droit européen que Varsovie remet en cause. Dialogue oui mais ferme, lui répondent notamment la France, l'Allemagne ou encore les Pays-Bas. L'étranger c'est aussi le Soudan et une révolution au bord du gouffre. L'alliance entre militaires et civils qui a fait chuter le dictateur Omar al-Béchir en 2019 se déchire. Les partisans des deux camps ont défilé dans la capitale Khartoum aujourd'hui. Des centaines de milliers de manifestants dans les rues du pays pour crier leur rejet des militaires toujours au pouvoir. Eliott Braché sur place.
La révolution est celle du peuple. Nous ne reviendrons pas en arrière. Ils sont des centaines de milliers à s'époumoner sur l'avenue qui borde l'aéroport de Khartoum. Ce qu'ils demandent, c'est que les militaires rendent totalement le pouvoir aux mains des civils. Depuis quelques jours, un sitting organisé par des factions dissidentes demandait la chute du gouvernement. Pour ce manifestant, c'est une tentative de déstabilisation orchestrée par les militaires et les soutiens du régime d'Omar al-Bashir. Le peuple soudanais tout entier est ici devant vous, estime cette avocate. On ne lâchera rien tant que le Soudan ne sera pas gouverné à 100% par des civils. Les cortèges s'étendent à perte de vue. Ils viennent de toutes les directions, brandissant des drapeaux soudanais. Le 21 octobre, c'est une date symbolique, l'anniversaire d'une des premières révolutions populaires qui avait détrôné le général Aboud en 1964. Aujourd'hui, cette démonstration de force des civils met à nouveau la pression sur les militaires. Eliott Braché, Khartoum, France Inter.
L'étranger, c'est aussi en Syrie le régime qui annonce l'exécution de 24 personnes accusées d'avoir provoqué des feux de forêt à la fin de l'été 2020, des actes terroristes, juge Damas. Les incendies avaient fait 3 morts. Et puis cette explosion contre un pylône électrique de Kaboul en Afghanistan qui plonge toute la ville dans le noir ce soir, sans revendication pour le moment.
Le passage de la tempête Aurore a laissé des traces.
40 000 foyers sont encore privés d'électricité ce soir en Normandie, dans les Pays de la Loire et en Bretagne principalement, sur 250 000 au plus fort des coupures. La faute aux branches ou aux arbres qui sont tombés sur les lignes et sur les rails aussi. La circulation des trains a repris en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France. Il reprend très progressivement ce soir entre Paris et la Normandie. Une voyageuse résignée en gare de Caen.
On a cherché de louer une voiture, mais il n'y a plus de voiture à louer. Et maintenant on cherche du bus, mais il n'y a pas beaucoup de place non plus, donc je sais pas comment ça va aller.
C'est un peu compliqué là, vous aviez votre hôtel réservé à Paris, oui. C'est ça?
On a ça, on a aussi des billets au musée déjà achetés pour ce soir, mais bon, je suis pas sûre si ça va être possible ou pas. Nous sommes déçus, mais bon, s'il n'y a pas une façon d'aller à Paris, il faut quand même accepter.
Et vous savez où dormir ce soir?
Non, on n'a rien, il faut trouver quelque chose. On va faire des plans, si possible.
Un témoignage d'une voyageuse au micro France Bleu de Charlotte Coutard. C'est compliqué aussi sur les routes, 1200 km de bouchons ce matin sur tout le territoire, plus de 900 encore ce soir, et des transports qui seront perturbés aussi par une grève de la SNCF à partir de demain. Un TGV sur 10 annulé demain, 1 sur 3 ce week-end. 3 syndicats appellent à la grève après l'échec de négociations sur les rémunérations et les conditions de travail. Vous n'irez pas aussi loin qu'en train, mais à ce compte-là, il ne reste plus que le vélo. Les assises du vélo électrique avaient lieu aujourd'hui à Grenoble. Les ventes explosent depuis la crise sanitaire. Il y a même des soucis d'approvisionnement. Et c'est aussi aujourd'hui que la ville de Paris a dévoilé son tout nouveau plan vélo pour une capitale 100% cyclable en 2026. Dans le détail, ça donne quoi, Soizic Pelé?
180 km d'abord de nouvelles pistes cyclables, 130 totalement créées et 52 de coronapistes. Vous savez, ces pistes temporaires qui ont vu le jour pendant la crise sanitaire et qui seront pérennisées. C'est déjà le cas, par exemple, avenue de la République. Le but, c'est d'assurer la continuité cyclable, affirme David Béliard, l'adjoint à la mobilité à la mairie de Paris, avec un travail sur les points les plus dangereux, comme les intersections et les portes de Paris. Celle de Montreuil notamment, où il y a eu un accident de vélo mortel au début de l'été. L'autre chantier de ce plan vélo, c'est la création de places de stationnement. Pour le moment, il en existe 46 000 à Paris et 130 000 supplémentaires seront disponibles d'ici la fin du mandat. Des arceaux, mais aussi des places sécurisées avec badge d'accès, caméras de vidéosurveillance ou gardiennage pour éviter les vols et installer en priorité aux abords des gares.
Soizic Pelé, France Bleu Paris, le budget 250 millions d'euros. Et puis Jean Nouvel et la Philharmonie de Paris enterrent la hache de guerre. L'architecte et la salle de concert mettent finalement sur le compte de malentendus ce conflit qui durait depuis des années et qui avait conduit Jean Nouvel à refuser d'assister à l'inauguration du bâtiment en 2015. La Philharmonie de Paris réclamait 170 millions d'euros pour des surcoûts de chantier. L'accord entre les deux parties se fait au nom du respect de la protection de l'intérêt public culturel. Manière de sortir par le haut de ce duel sans fin.
Eh bien, tant mieux. En voilà une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Hélène. On se retrouve évidemment demain. Nous, on reste ensemble pour le téléphone sonne. C'est dans un instant. Vos appels sont déjà là et c'est tant mieux. On les attend. On parle de la plus grande campagne d'appel aux dons ovocytes et sperme lancée aujourd'hui. Les donneurs doivent aussi avoir des profils variés. C'est ce que dit l'Agence de la biomédecine. On y vient dans un instant. Un œil sur le ciel juste avant.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Et le Dikalak, un temps changeant pour demain.
Oui, avec beaucoup de gris quand même le matin du sud-ouest vers le massif central, le Lyonnais et la Franche-Comté. Quelques averses, elles persisteront l'après-midi, mais ça commencera à s'éclaircir tout doucement. De la Méditerranée aux Alpes, là vous profiterez du soleil, avec du vent jusqu'à 60 km/h pour la Tramontane, 80 pour le Mistral. Et puis plus au nord, le soleil va devoir composer avec les brouillards et les nuages bas le matin, surtout vers le Grand Est, la Bretagne et la Normandie. Et l'après-midi, ça sera nuageux sur les régions au nord de la Loire et très ensoleillé entre les Charentes, le Berry, la Bourgogne et l'Alsace.
En revanche, il fera plus frais.
Oui, souvent 1 à 5 degrés au nord le matin et même quelques gelées possibles par endroit. Ce sera plus doux encore en allant vers le sud avec 9 à 15 degrés. Et puis l'après-midi, pas plus de 12 degrés à Nancy, 13 à Lille et Clermont-Ferrand, 15 à Paris, Caen, La Rochelle, 17 à Bordeaux et Toulouse, 21 pour Marseille et 23 pour Ajaccio.
Et Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup.